Vous écoutez
RMC.
Il est 7h58 sur RMC et RMC Story. Charlène Villemer, je me réjouissais sur le beau temps. C'est pas pour tout le monde,
non,
que pour nous.
Exactement, c'est pour le Nord et ça va durer jusqu'à demain au moins parce qu'on a cette goutte froide qui concerne donc le Nord de la France. Elle passe, elle glisse sur les côtes de la Manche jusqu'à l'Est. Ça donne donc un air très chaud cet après-midi au Sud. On a cette instabilité qui va donc s'installer dans le Sud-Ouest aujourd'hui. Alors ce matin, c'est donc très calme, comme je le disais. On a un voile nuageux qui traverse d'Ouest en Est. Cet après-midi, on va surveiller les cumuls de pluie, notamment dans les Pyrénées. On attend jusqu'à 60 mm d'eau. On a de la grisaille également dans le Languedoc-Roussillon. Le soleil sera quand même présent un petit peu dans la région PACA. Et on aura du vent également sur les côtes de la Manche. Au niveau des températures, c'est aussi contrasté entre le nord et le sud. On a seulement 6 degrés à Reims ce matin, 14 déjà à Perpignan. Cet après-midi, ça remonte un petit peu. 22 pour Paris, 23 pour Bourges, 21 à Clermont-Ferrand et 20 à Perpignan.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
7h59 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous. Toute la journée à attendre, et ça va être long, hein, pour les supporters du PSG qui affrontent le Bayern Munich ce soir en demi-finale de Ligue des Champions. On va vous donner toutes les infos sur ce match dans un instant. En attendant, vous allez voir que l'heure est aux économies. Dans le sud de la France, la métropole d'Aix-Marseille risque carrément d'être placée sous tutelle. Et vous verrez aussi que les prix des carburants sont pas prêts de redescendre. Les discussions États-Unis-Iran sont au point mort et les prix du pétrole s'envolent ce matin.
Disons-le franchement, hein, on va assister ce soir à l'un des plus grands matchs de foot de la saison.
Oui, et certains supporters parisiens voient dans cette demi-finale aller, hein, de Ligue des Champions entre Paris et le Bayern, et bien une finale avant l'heure.
C'est la finale qu'on aurait rêvé d'avoir. Il n'y a aucune équipe qui est favorite.
C'est un gros match. Le Bayern, ils font une très belle saison. Alors, ça va être une grosse demi-finale de Ligue des Champions.
C'est les deux plus grosses équipes en Ligue des Champions qui ont vraiment les joueurs pour la gagner.
C'est un peu la finale avant l'heure, oui. On sait qu'il y a des très bons joueurs en face. Ça va être une belle opposition.
Et l'entraîneur parisien Luis Enrique dit carrément que c'est le match entre les deux meilleures équipes d'Europe. Voilà, le ton est donné. Jean-Louis Tour, c'est vous qui allez commenter ce soir ce match à 21h sur RMC. Vous êtes en direct avec nous ce matin. On se souvient que les deux équipes se sont affrontées. C'était en début de saison et à l'époque, eh ben, le Bayern avait roulé sur le PSG.
Oui, et heureusement pour les supporters parisiens, beaucoup de choses ont changé depuis, car le 4 novembre dernier, Paris n'avait pas existé. Asphyxié par le rythme intense mis par le Bayern, vainqueur 2-1 dans cette phase de Ligue. À l'époque, les Parisiens vivaient un début de saison entre usure mentale, physique, après la saison dernière harassante et des blessures. Ousmane Dembélé était d'ailleurs sorti à la demi-heure de jeu et Achraf Hakimi avait quitté le terrain en larmes, persuadé que le tacle déplacé de Luis Diaz, le Colombien, le priverait de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Les retrouvailles entre ces deux-là seront d'ailleurs à scruter ce soir. Car les blessures, c'est quasiment de l'histoire ancienne pour Luis Enrique, car il dispose de tout son groupe pour ce soir. Un point d'interrogation tout de même, l'état de forme de Vitinha qui n'a pas joué depuis qu'il est sorti sur blessure contre Lyon il y a 10 jours. Depuis novembre, Paris a surtout retrouvé ses vertus et son niveau de la saison dernière, à l'image des qualifications brillantes contre Chelsea et Liverpool. Le Bayern, lui, n'a pas vraiment faibli avec plus de 3 buts de moyenne marqués par match en Allemagne, mais une équipe qui s'est aussi montrée humaine et parfois en difficulté contre le Real Madrid au tour précédent. De quoi espérer une deuxième finale de suite pour les Parisiens en Ligue des Champions.
Jean-Louis Tour, en direct ce matin sur RMC. Jean-Louis qui commentera ce soir le match sur RMC en direct du Parc des Princes dès 18h avec Jérôme Roten pour Roten sans flamme. Et la soirée va se prolonger, vous en avez l'habitude désormais, jusqu'à 1h30 du matin.
Et vous ne manquerez rien à l'écoute d'RMC de ce choc de Ligue des Champions de fin de saison, demi-finale. Allez, tiens vos pronostics, n'hésitez pas au 32-16 ou sur le WhatsApp RMC au 06-12-424-424. On vous accueillera à l'antenne. Il est 8h02 sur RMC et on se demande ce matin si la guerre va reprendre au Moyen-Orient.
60 jours ce matin qu'elle a commencé. Et alors, on est dans une période de stand-by en ce moment avec un cessez-le-feu et des tractations. Axel Monnier, vous êtes aux États-Unis pour RMC. L'Iran propose donc ce matin de débloquer le détroit d'Ormuz à condition de remettre à plus tard la question du nucléaire, condition que rejette déjà Donald Trump.
Oui, un Donald Trump pas satisfait de la proposition iranienne, jugée insuffisante et qu'il ne devrait pas accepter. Pourtant, Marco Rubio estimait ce lundi que les deux pays n'étaient plus si éloignés que ça sur la question du détroit d'Ormuz. Mais tant que le nucléaire nucléaire iranien ne sera pas abordé, difficile d'imaginer les Américains signer un accord. Alors que va faire Donald Trump désormais, lui qui risque d'être pris au propre piège de ses contradictions? On sait qu'il veut en finir avec ce conflit, qu'il lui coûte cher économiquement et politiquement, mais il semblait peu favorable à la reprise des combats ces dernières heures et ces derniers jours. Et en même temps, il avait promis des représailles très fortes à l'Iran en cas d'échec des négociations. L'option la plus probable aujourd'hui, c'est qu'il laisse encore un peu plus de temps à Téhéran. Oui, mais combien de temps aura-t-il la patience d'attendre? C'est toute la question.
Alors pendant ce temps, les prix du pétrole continuent de grimper tous les jours un petit peu plus. On redépasse, ça y est, les 110 dollars. Le baril de Brent, ce matin, c'était monté à 119 au plus fort de la crise. Et la première banque d'affaires mondiale, la Goldman Sachs, prévient qu'on atteindra les 120 si la guerre s'enlise. Il va donc falloir se serrer la ceinture dans le sud de la France. Les temps sont durs, disait encore la semaine dernière le Premier ministre Sébastien Lecornu à propos des finances des collectivités. Il disait ça depuis Marseille, où la métropole d'Aix-Marseille, donc la plus étendue de France, risque carrément une mise sous tutelle. C'est une mesure rarissime, Romain Houck, pour RMC. Il y a une séance budgétaire qui est prévue ce mardi avec l'obligation de faire des économies.
Mais oui, la date butoir à laquelle les collectivités doivent avoir voté leur budget, c'est dans seulement 2 jours. Et il doit être à l'équilibre, c'est une obligation légale. Or, dans le cas d'Aix-Marseille, on est encore très loin. Les 92 élus, dans leur grande majorité, menacent de ne pas voter ce budget déficitaire de 123 millions d'euros, une somme qui correspond à peu près à la baisse jugée insoutenable des aides de l'État ces 2 dernières années. Pour équilibrer le budget, il faudrait une hausse d'impôt de près de 200 euros par foyer fiscal. C'est hors de question pour le président de la métropole. D'autres mesures sont évoquées, augmenter les tarifs des transports, baisser les subventions aux associations, mais elles sont loin de faire consensus. Sans vote aujourd'hui, et c'est le scénario vers lequel ce conseil semble se diriger, la métropole serait placée sous le tutelle de la Chambre régionale des comptes, qui aurait alors un mois pour formuler un budget alternatif. Ce n'est arrivé que 2 fois auparavant, en Charente l'année dernière et en Guadeloupe à la fin des années 90.
Ce matin, les syndicats de cheminots appellent au rassemblement devant le siège de la SNCF à Saint-Denis, c'est au nord de Paris, pour alerter leur direction sur un certain mal-être au sein de l'entreprise après les suicides de 12 salariés depuis le début de l'année, nous explique Lou Garnier.
Un sentiment de mal-être inédit chez les salariés de la SNCF, dénonce Fabien Villedieu. Il est secrétaire fédéral Sudrail.
On tire la sonnette d'alarme. Tous les 9 jours, il y a un collègue qui se suicide à la SNCF. Donc, il y a un drame social.
Un drame social dû au processus de restructuration de la SNCF, selon lui. Il dénonce des conditions de travail dégradées qui, si elles s'ajoutent à des situations personnelles difficiles, peuvent conduire au pire.
On a quand même 3 collègues qui se sont jetés sous un train. Donc, on peut faire quand même le lien entre le suicide et le travail. La concurrence est devenue l'excuse aux réorganisations qui se traduisent par des suppressions de postes, qui se traduisent par des déménagements, par des horaires décalés de plus en plus intenses. Et tout ça, ça a des conséquences concrètes.
Alors les syndicats de cheminots exigent un moratoire sur la réorganisation de la SNCF. La direction de l'entreprise, elle, assure que sur les 12 salariés qui se sont donné la mort, aucun n'était menacé par un transfert ou par une suppression de poste.
Bon, et puis téléphoner ou conduire, et désormais il va falloir choisir. Les règles vont se durcir sur la route dans un 4e département, puisqu'après les Landes, le Lot-et-Garonne et le Pas-de-Calais depuis quelques mois, eh bien c'est en Charente-Maritime que désormais conduire au volant sera passible d'une suspension immédiate du permis de conduire. C'est au nom de la sécurité routière, bien évidemment. Il va falloir changer certaines mauvaises habitudes, si on en croit Pierre Bourget, sur place pour RMC.
Dans la petite citadine rouge de Chloé, le support pour téléphone est fixé juste à côté de son volant, à portée de main.
Ça m'arrive très souvent de l'utiliser. Ça m'est déjà arrivé de me faire un peu peur, ouais. Bien sûr. On dévie un petit peu, d'un coup on lève la tête, une voiture qui arrive en face. C'est vrai que c'est hyper dangereux.
Pour autant, cette nouvelle menace, jusqu'à 6 mois de suspension de permis si elle l'utilise, ne l'effraie pas. Elle l'admet, elle ne changera pas ses habitudes.
On est toujours tenté, de toute façon, par exemple, un exemple bête, une notification, on est vite tenté de regarder qu'est-ce que c'est.
Le simple fait de manipuler son téléphone en voiture peut entraîner cette suspension, mais difficile de s'en passer pour ce livreur en camion.
On s'en sert beaucoup. Après, c'est difficile de s'arrêter à chaque fois. Il va falloir que je sois hyper vigilant. Et passer un retrait de permis, c'est un retrait de travail.
Lui reste tout de même favorable à cette nouvelle sanction, comme la plupart des automobilistes que nous avons rencontrés.
Je pense que c'est une bonne chose. Il y a trop d'accidents. C'est pas lié qu'à ça, mais en partie, c'est le téléphone. Ouais.
Tant mieux, si ça peut éviter des accidents, tant mieux.
Et moi, j'espère que ça va dissuader beaucoup de gens de le faire.
Dans les Landes, depuis novembre dernier, date à laquelle cette sanction est entrée en vigueur, plus de 200 permis ont été suspendus, selon la préfecture.
Et puis, j'ai une autre info foot à vous donner ce matin concernant la Coupe du Monde. C'est toujours plus, hein, décidément, cette Coupe du Monde. Selon les informations d'RMC Sport, la FIFA doit décider dans la journée eh bien, d'augmenter le prize money, qui est aujourd'hui de 50 millions de dollars pour le vainqueur du mondial.
Ah, mais j'aurais dû m'inscrire. Merci beaucoup, Quentin Vidé. Merci. Il reste un peu de temps pour préparer pour la Coupe du Monde.
Tu payes un ou deux pleins d'essence avec.
Programme de sèche. Oui, il y a quelques pleins de gasoil, exactement. Avec le baril, c'est quand même une info qui était dans votre journal, qui a dépassé les 110. On va y revenir avec Pierre Rondeau. Merci beaucoup, Quentin Vidé. Il est 8h08, vous avez compris, on va parler d'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Mais avant de parler du prix des hydrocarbures, Pierre, ça reste très connecté à la guerre au Moyen-Orient. Le monde se sent de moins en moins en sécurité. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport paru hier sur les dépenses militaires mondiales.
Oui, hein, au lieu de dire la France a peur, on pourrait dire le monde a peur. En 2025, 2900 milliards de dollars ont été dépensés dans le secteur militaire. Selon l'Institut international de recherche sur la paix, un record absolu en croissance continue depuis 11 ans. Tout indique que le monde se sent moins en sécurité et dépense davantage pour ses forces armées afin de faire face au contexte international. Guerre en Ukraine, conflit au Proche-Orient, conflit au Moyen-Orient, la période n'est pas des plus positives.
Et dans le détail, qui dépense le plus ?
Les États-Unis, hein, première puissance militaire du monde avec, tenez-vous bien, 954 milliards de dollars dépensés en 2025. Vient ensuite la Chine avec 336 milliards, puis la Russie à 190 milliards. En Europe, c'est l'Allemagne qui affiche le plus gros budget à 114 milliards de dollars en augmentation de 24% sur un an, du jamais vu depuis 35 ans. L'Espagne aussi apparaît comme un gros pourvoyeur d'efforts militaires avec une augmentation de ses dépenses de 50% en un an à 40,2 milliards.
Je retiens les États-Unis, 950 milliards de dollars dépensés en 2025 et au début de la guerre, on disait que c'était un milliard par jour, hein, oui. Que ça leur coûtait la guerre en Iran. Et la France ?
Alors, c'était l'une des promesses du président Macron à augmenter le budget de la défense de 36 milliards d'ici 2030. Actuellement, il se situe à 64 milliards, soit la 9e dépense militaire internationale, derrière des pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite ou le Royaume-Uni. L'idée serait donc d'atteindre la barre fatidique des 100 milliards d'ici 4 ans. Et surtout trouver un moyen de le financer. Hein, aujourd'hui, sur 1000 euros d'impôts récupérés par l'État, 32 euros sont consacrés au budget de la défense. La question, si l'on veut atteindre les 100 milliards, serait de savoir si nous sommes prêts et capables de dépenser plus vers cette enveloppe et moins ailleurs. C'est un véritable choix de société.
Vous avez regardé les prix, comme tous les matins, les prix des carburants, des énergies.
Alors, le samplon 95, il stagne. Il était à 1,99 hier. Il est toujours à 1,99 aujourd'hui. Le gazole, il augmente très légèrement à 2,19 de 1 centime. On l'a dit, le baril de pétrole, il a dépassé la barre des 110 dollars. Il était à 107 dollars hier. Il n'y a que le gaz qui baisse, mais très légèrement. 44,16 hier, 44,08 aujourd'hui.
On continue de surveiller, comme vous, vous surveillez sur les totems des stations-service, évidemment, cette situation dont on ne sort pas. Merci Pierre Rondeau.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et dans un instant, on va sourire, on en a besoin, entre la guerre et le prix des carburants. Arnaud Demange qui nous rejoint. Et puis à 8h30, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, invité du face-à-face sur RMC et BFM TV. Il répondra aux questions de Marie Chantrey juste après. Nicolas Canteloup, face à Canteloup, ça c'est à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et Arnaud Demange est avec nous.
Et bonjour à tous. Tiens, bonjour ce matin, Arnaud. Non content de vous faire rire comme un champion, j'ai envie de vous faire voyager. J'ai envie de vous parfumer d'exotisme.
Allons-y.
Mathieu, les amis, je vous emmène en Andorre. Emmanuel Macron est en visite officielle dans ce micro-État entre la France et l'Espagne. C'est un voyage important, vous voyez. En cette période où la Chine, la Russie et les États-Unis renouent avec l'impérialisme, on a besoin de nouer des alliances fortes avec les grandes puissances. Voilà. Bon, il faut bien commencer par quelque chose. Ceci dit, là-bas, le samplon est à 1,60€ s'il peut nous ramener des jerrycans. Brigitte Macron ne vient pas. On la comprend, hein, elle a eu peur de se faire euthanasier. La capitale là-bas, c'est Andorre la Vieille. C'est pas la vanne la plus élégante que j'ai faite.
Non, mais
Andorre la Vieille. Comment tu veux passer à côté sans faire un jeu de mots? C'est pas possible. Vois l'air désapprobateur d'Élise. Je vois. Mmh. Emmanuel Macron, vous savez qu'il est coprince d'Andorre.
Ouais.
Voilà. Coprince, c'est un peu moins classe que prince. Si Bardella est élu dans un an, il sera coprince d'Andorre et sa copine restera princesse des deux Siciles. Elle le regardera de haut. Coprince,
minable.
Je vous trouve bien inélégant, mamie. En plus, moi au moins, mon royaume, il existe. C'est pas les deux Siciles. Qu'est-ce que c'est que ça, les deux Siciles? Le Bourbon. C'est où ça, le Bourbon? Chez Didier Bourbon. C'est nul. Tiens, j'ai un petit quiz. Quels autres titres, à part co-prince d'Andorre, porte Emmanuel Macron? Vous êtes prêts? Chanoine honoraire de Saint-Jean-de-Latran.
Oui.
Oui. Maître des horloges.
Oui.
Oui. Chanoine de Saint-Jean-de-Maurienne.
Non.
Oui.
Non. Si.
Ah. Grand maître de la confrérie des compagnons du Boudin Blanc.
Oh, j'espère.
Eh ben non.
Ah, dommage. Dommage.
Action de trucs comme ça.
Dommage.
Protecteur du domaine de Chambord.
Ah, bah, j'imagine.
Oui, oui. Chevalier de Las Palès. Protecteur de l'Académie française.
Oui.
Oui. Oui. Ah, oui. On apprend en s'amusant ce matin.
Ah, c'est fou.
Grand bistouquet du Touquet.
Non.
C'est dommage. C'est dommage, ce
ça sonne bien. Bien. Je le mets très bien sur une carte de visite.
Grand bistouquet du Touquet.
L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a annoncé qu'il quitterait la France pour la Belgique.
Oui, et sur CNews, on n'est pas content. Et bonsoir. Bonsoir. Vous l'avez vu, Boualem Sansal quitte la France pour la Belgique. Espèce d'ingrat. Casse-toi, on te retient pas. Quand je pense qu'on l'a défendu, on a parlé de lui 24 heures sur 24, on lui a tout donné. On n'a jamais aussi bien parlé d'un arabe chez nous. Même Sonia Mabrouk, elle a été moins bien traitée que lui. C'est scandaleux, non? Hein, Christine Kelly? Oui, c'est scandaleux. Mais est-ce surprenant? De plus en plus de Français d'origine algérienne partent en Belgique rejoindre les rangs de l'État islamique à Molenbeek. N'est-ce pas, Philippe de Villiers? Tout à fait. C'est juste sur la dissimulation. La taqiya. Ils se font passer pour des intellectuels à queue de cheval ou à chignon. Ils vous trahissent et partent apprendre des versets djihadistes à de jeunes binationaux. Et oui, mais ça nous apprendra à être tolérants. Voilà. On a voulu lutter contre nos préjugés. Nos préjugés, vous savez quoi? On n'aurait pas dû. C'est une erreur qu'on ne fera pas de fois. Envoyez-moi l'imam Chalgoumi, il va morfler. Et on va la voilà. Ça va mal se mettre.
La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a publié les déclarations de patrimoine des 30 membres du gouvernement.
Oui, on en a déjà un peu parlé. Vous vous souvenez, Sébastien Lecornu a un découvert de 500 euros sur son compte. Bon, alors en fait, il a plein d'argent sur d'autres comptes et une maison à 700 000. Si ça se trouve au gouvernement, c'est pareil. On nous dit qu'on est en déficit de 3400 milliards, mais il y a peut-être un autre compte avec 100 000 milliards et les clés d'un chalet à Courchevel qui traînent dans un coffre à Bercy. On a oublié, on ne sait pas. Peut-être que De Gaulle a caché des trésors. Regardez RMC Découverte, ils ont forcément fait un documentaire. Charles De Gaulle et l'or caché des Illuminati du Troisième Reich. L'histoire commence dans une pyramide inca au nord de Londres, servant de base sous-marine aux Templiers de l'Atlantide. Monique Barbu, notre ministre de l'écologie, a plein d'actions de grandes entreprises, Gillette, Bic, d'ailleurs un scandale barbu, hein. Wilkinson, Jean-Louis David, les débroussailleuses Husqvarna et un stand de Barbapapa à la fête à Neuneu. Et enfin, Laurent Panifou possède un trésor inestimable, la recette du Panifou. Car Laurent Panifou n'a pas juste un nom qui ressemble à un fromage de Provence, c'est l'héritier d'une dynastie. Viens, escarte-figue, je t'amène chez la Rabouillère et son mari Bouffigas et je vais te raconter l'histoire du Panifou. Dans les belles montagnes des Pyrénées jurassiennes de l'Himalaya, quand le berger d'Escoubiade amène son troupeau pâturé dans la cordillère des Andes... Oui, c'est une recette secrète, hein, il brouille un peu les
pieds.
La bergère reste dans le massif central et va traire les loutres des rivières. Les loutres du petit ruisseau de la Caganiette pour obtenir les quelques centilitres journaliers qui fermenteront 24 mois pour donner le goût unique de Panifou, le seul fromage au lait de loutre. Mais c'est immonde ! C'est le Panifou. Bonne dégustation et à demain.
Merci bon beaucoup appétit. Arnaud Demange, qu'on retrouve tous les jours, bien sûr sur RMC, en podcast quand on veut et en tournée. Épinal, Gaillac, Nice, Genève, Le Garric, Creutzwald, Aix-en-Provence ou encore Toulon. Un spectacle à RMC, vous ne passez pas par les Pyrénées jurassiennes de l'Himalaya.
Non, mais à Aix-en-Provence, je vous ramènerai un bon panifou. Mathieu.
À la recherche
avec
du panifou.
Plaisir.
Merci beaucoup. Un spectacle RMC. Arnaud Demange, il est 8h20. On va accueillir Barbara au 32-16. Barbara qui est dans l'Oise. Bonjour Barbara.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Soyez la bienvenue. Vous avez écouté Philippe Juvin, député LR, oui. Rapporteur du budget, qui propose de rapprocher le brut du net.
de supprimer des cotisations salariales concrètement et de rendre du pouvoir d'achat aux Français.
Oui, bah oui, j'ai bien entendu. Moi, je voudrais.
Vous êtes gestionnaire de paye, Barbara. Vous les voyez, les fiches de paye de tous.
Ah bah bien sûr, je suis gestionnaire de paye. Donc effectivement, il y a 23% de charges sociales. Enfin, c'est pour remettre un peu les chiffres. 23% de charges sociales, dont c'est une déduction des charges hors un CSG. Bon, la CSG, elle fait déjà un peu moins de 10% de charges. Donc déjà.
Oui, c'est ça.
Déjà, on arrive quand même. Et ensuite, moi, je voudrais savoir comment on va compenser, notamment, parce que dedans, en fait, dans ce qui reste, vous avez de la sécurité sociale automatiquement.
Alors déjà, je peux vous répondre, Barbara. Il a dit, on garde la CSG et on augmente la TVA. On garde CSG, CRDS et le reste, il supprime cotisation salariale, chômage, assurance santé, etc.
Alors, chômage, y a pas déjà. Chômage, y a pas. Il y a que l'employeur qui cotise. Mais comment on va faire pour compenser en fait les 4% de retraite?
Les 4% de retraite, il parle d'une augmentation de la TVA. Alors lui, dans son calcul, il est à la fois sur la création d'activités, de redonner du pouvoir d'achat aux Français, ils vont dépenser, ça donne 10% de salaire, ça va créer de l'emploi, 450 000 emplois à échéance, je ne sais plus quelle année, il l'a dit tout à l'heure, Philippe Juvin. Et ensuite, il parle d'augmenter la TVA, c'est de la TVA sociale, 3 points de plus de TVA, 1 point de plus de CSG, ça fait à peu près 40 milliards quand on additionne les deux. Mais c'est dans les 4 ans pour les emplois.
Oui, mais comment, enfin, je sais pas, moi...
Vous n'y croyez pas, en fait, Barbara. Non, mais qu'on le dise clairement, vous n'y croyez pas.
Mais bien sûr que non, parce que la retraite, c'est important pour ceux qui sont comme moi, j'ai 52 ans, dans 10 ans, je suis en retraite, à peu près, hein. Comment mes 4 points, mes 4% sur lesquels je cotise, comment je vais récupérer des points, en fait? Moi, ma retraite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va baisser quand je vais y
passer. Ah non, je pense pas.
Je sais pas.
Ça, Barbara, vous savez, il y a débat parlementaire et derrière. Là, pour l'instant, voilà. Il a mis une idée, mais vous avez entendu. Alors, vous qui êtes quand même gestionnaire de paie, vous avez entendu rapprocher le brut du net. C'est Philippe Juvin ce matin, c'est Jordan Bardella dimanche, c'est Gabriel Attal et Bruno Retailleau avant eux. Ça va être le grand slogan de l'année à venir. Hein.
Oui, bah moi, j'y crois pas trop. Hein.
J'entends ça. Et vous êtes gestionnaire de paie. Donc, vous, en plus, les fiches de paie, les petites lignes dont on dit qu'on ne comprend rien, vous les comprenez. Et merci, Barbara, d'avoir éclairé nos auditeurs ce matin au 32-16. Merci d'avoir pris la parole en direct avec nous. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, le face-à-face, Marie Chantrey reçoit Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. A tout de suite sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Marie Chantrey.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes évidemment, on ne le rappelle pas, ancien Premier ministre, ancien ministre également des Outre-mer, du gouvernement François Bayrou et de Sébastien Lecornu. 28 avril dernier, 28 avril aujourd'hui, 28 février, il y a 60 jours, les États-Unis et Israël frappaient l'Iran. La guerre entre ce mardi dans son troisième mois. Si vous êtes face à moi ce matin, Manuel Valls, c'est que dans une tribune que notamment nos confrères de l'Express ont publiée cette semaine, vous étriez littéralement la diplomatie française, vous ne mâchez pas vos mots, inaction, décision hasardeuse, on va y revenir longuement. Vous, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, pourquoi tant de sévérité? Pourquoi jouer contre votre camp?
Je ne joue pas contre mon camp. J'essaie de réfléchir sur ce monde qui a totalement changé, qui a basculé. Je me suis compris exprimé au sein du Conseil des ministres au mois de juillet pour dire que je n'étais pas d'accord avec la reconnaissance de la Palestine sans condition. Donc je suis resté un homme libre, un patriote, un républicain, mais qui considère que le logiciel de la diplomatie française n'a pas intégré le basculement dans lequel nous sommes, notamment depuis le 7 octobre 2023, cette attaque terrible du Hamas contre Israël qui a rebattu les cartes au Proche et au Moyen-Orient. Voyez-vous, nous sommes face à deux lignes de front majeures. L'Ukraine, évidemment, où se joue l'avenir de l'Europe, notre liberté. C'est pour cela que nous soutenons les Ukrainiens. C'est pour ça que nous apportons notre soutien à Volodymyr Zelensky.
Grâce notamment à ce nouveau plan voté, dû notamment au fait que Viktor Orban ait été battu.
Grâce à l'Union européenne. Et moi, je me réjouis, je soutiens là notre diplomatie, l'action d'Emmanuel Macron, parce que je pense que c'est essentiel pour l'Europe de bâtir sa défense et d'investir massivement pour le soutien aux Ukrainiens, mais aussi pour notre défense. Et l'autre ligne de front, elle se joue au Proche et Moyen-Orient, mais elle nous concerne aussi, c'est la ligne de front de l'islamisme.
Mais l'homme libre que vous êtes, vous le dites, ok, très bien, il distribue, Emmanuel Macron, des leçons de droit international. Vous êtes très très sévère à l'égard de son action, à l'égard également de la diplomatie française, je le disais. La France n'a été ni prévenue, ni impliquée. Ce sont les premiers mots du chef de l'État. Une forme de transparence qui est aussi à saluer. Fallait-il aller plus loin dans cette guerre en Iran ?
Il faut choisir son camp avec lucidité. Évidemment, la diplomatie, la guerre ne sont pas des choses faciles. La guerre s'est invitée de nouveau pour nos sociétés. C'est un bouleversement, bien sûr, en Europe et partout, au Proche et au Moyen-Orient. Et si les cartes ont été rebattues, il faut adapter notre logiciel. Choisir son camp, ça veut dire soutenir les démocraties qui se battent contre le terrorisme islamique. Et l'Iran, il faut toujours désigner un ennemi. L'Iran est notre adversaire, est notre ennemi, est l'ennemi de nos valeurs et de l'Occident.
Et de votre point de vue, il n'est pas assez suffisamment désigné comme notre ennemi aujourd'hui ?
Il y a parfois une forme d'équidistance, et on le voit notamment au Liban, entre le Hezbollah et Israël, comme si c'était des belligérants. L'Iran, c'est la profusion depuis 40 ans, partout dans le monde, de l'islamisme. C'est le terrorisme contre ses opposants sur le sol français, mais aussi contre nos intérêts. C'est évidemment la menace nucléaire, inacceptable pour Israël, puisque l'Iran menace régulièrement d'anéantissement l'État hébreu, mais ça nous concerne aussi directement. C'est la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient, à commencer par le Liban, où le Hezbollah agit pour les seuls intérêts de l'État iranien.
Et on va évoquer ce qui se passe
au Liban. Le massacre de son peuple.
Mais vous écrivez...
Donc face à cela, nous ne pouvons pas rester inertes. Nous ne pouvons pas dire que cette guerre ne nous concerne pas. Je suis le premier à dire que la stratégie de Donald Trump, nous avons du mal à la lire. Pourquoi on n'a pas anticipé le blocage potentiel du détroit d'Ormuz? Tellement de mots, cette avalanche de discours, et le sentiment d'ailleurs d'abandon du peuple iranien qui a été et qui est massacré par ce pouvoir.
Et donc on est très très loin d'un changement aussi de régime. Vous écrivez,
oui, mais
le président...
Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative à ce qui est en train d'être fait? Continuer de négocier, mais enfin c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Là, j'étais Premier ministre quand il y a eu l'accord sur le nucléaire en 2016, malgré les préventions de la...
demain par le président.
Malgré les préventions de la France et Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, avait mis beaucoup de conditions, mais Barack Obama voulait à tout prix cet accord. Donald Trump l'a balayé au bout de 2 ans. Mais l'administration Biden, démocrate, n'a pas repris ces négociations. Est-ce que la menace nucléaire a été abandonnée? Elle est toujours là.
Certainement.
Est-ce que
pas.
La menace des missiles balistiques qui concernent d'abord Israël, mais pas seulement, n'existe-t-elle pas? Elle existe toujours.
Manuel
Nous
Valls.
L'avons vu. Bon, donc, est-ce que ce régime déstabilise toujours le Liban? Plus que jamais. Donc il faut choisir son camp, il faut désigner l'ennemi, il faut faire valoir nos intérêts stratégiques.
Ce que la France, Manuel Valls, ne fait pas suffisamment selon vous aujourd'hui.
Évidemment, et c'est le cas au Liban, en le soulignant, et je le dis
dans
cet article.
Vous évoquez l'attitude de Donald Trump, du président américain, son imprévisibilité aussi. Il y a quelques semaines, il parlait de rendre sa grandeur à l'Amérique. Il évoquait une petite excursion, je le cite, en cours pour détruire le mal. On est aujourd'hui très loin de la petite excursion qui est en train de ressembler à une guerre gelée, peut-être jamais terminée. De ce point de vue-là, est-ce que la retenue de la diplomatie française, la retenue aussi plus largement des Européens, ne va pas dans leur sens?
Oui, mais la retenue des mots, un discours intelligent, ne pas parler tout le temps, bien évidemment. Mais il faut revenir à l'essentiel. Moi, je lis, j'écoute ce que disent Éric Danon, Alain Boer, Frédéric Ancel sur le discours de Trump. Trump, il a son discours. Il gère l'opinion publique américaine.
Sa propre
et
opinion,
sa
sans
propre
doute.
Opinion. Et il est comme ça, malheureusement. Et quand il évoque, par exemple, la destruction d'une civilisation, on a froid dans le dos, bien évidemment. Sans doute que l'administration américaine a davantage de stratégie. Mais Le monde a changé le 7 octobre, je vous le disais. Israël est sur un front très large de plusieurs guerres, à commencer évidemment par la menace iranienne et ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le Hamas et ce qui se passe bien sûr au Liban. Donc face à cela, que faisons-nous ? On garde une équidistance, on considère qu'il n'y a pas des menaces majeures du côté iranien, que le Hezbollah ne tient pas en otage l'État libanais. On demande le désarmement, une résolution qui avait été adoptée quelques années, grâce notamment à la France, le désarmement du Hezbollah. Mais qui participe de ce désarmement ? C'est à l'armée libanaise de le faire, mais elle n'a pas les moyens, donc il faut que la France s'implique encore davantage.
Et sur ce point précis, vous dites en effet...
Et comment Israël ne peut-elle réagir face au bombardement au nord d'Israël, au tunnel organisé pour attaquer les villages du nord en Israël. Donc moi, je regarde ça avec lucidité, avec parfois du recul. Je me dis qu'à partir du moment où on a une démocratie Israël qui est en première ligne face à l'islamisme, notre rôle, c'est de soutenir davantage les Israéliens face à ces menaces.
On va revenir là sur le Liban précisément, et certains aussi, vous le savez, vous reprochent vos positions peut-être parfois trop pro-israéliennes. Juste, on se demande pourquoi maintenant ? Pourquoi tant de critiques ? Vous dites encore une fois, lucidité, mais je lis aussi, et je l'ai lu attentivement, cette tribune, une très très grande sévérité. N'avez-vous pas peur finalement que ces arguments que vous développez ne jouent finalement contre nos ennemis de l'intérieur, de l'extérieur, soit un argumentaire supplémentaire pour nous affaiblir.
Je vais utiliser votre expression ennemi de l'extérieur et ennemi de l'intérieur. Mais c'est le terrorisme islamiste qui nous a frappés. C'est pas notre soutien, encore moins mon soutien à Israël, qui a fait que l'État islamique, Al-Qaïda, parfois les Iraniens,
Non, c'est bien évidemment.
Souvent, le Hezbollah nous ont frappé. Donc, notre intérêt stratégique, et je comprends parfaitement votre question, notre intérêt stratégique, c'est de lutter contre ceux qui mènent une guerre à nos valeurs, à l'Occident, à la démocratie, la France. Moi, je soutiens Israël, d'abord parce que c'est une démocratie, parce que je pense que nous devons réviser en effet notre stratégie diplomatique en soutenant Israël dans une alliance stratégique.
Vous reprochez d'ailleurs
région.
À la France aussi, encore une fois, d'avoir notamment interdit le survol de son d'abord. Territoire il y a quelques semaines.
Oui, et puis d'être dans une polémique permanente, dans une tension permanente avec Israël. La deuxième priorité, c'est le Liban et le soutien à cet État avec qui nous partageons tant d'histoire et tant de culture. C'est aussi le soutien aux accords d'Abraham, c'est-à-dire entre les pays sunnites, les pays du Golfe, et j'espère demain l'Arabie Saoudite et Israël. C'est évidemment conforter notre accord stratégique avec les Émirats Arabes Unis. Et puis c'est le soutien, bien évidemment, aussi au peuple iranien massacré par le régime des Mollahs.
Soutien au peuple libanais. J'entends Benjamin Netanyahou qui a encore affirmé ces dernières heures que la menace du Hezbollah, notamment dans le sud Liban, impose la poursuite de l'action militaire. Encore des victimes, cette nuit, des enfants... Et ces incidents, notamment avec des militaires de la FINUL, là c'est le Hezbollah qui est impliqué, visé, des soldats français ont été tués. Juste une question, un hommage national doit se tenir aujourd'hui, en hommage notamment au caporal-chef Aznissé Girardin. Est-ce que vous êtes choqué comme certains de l'absence, de la présence du président de la République ou de Sébastien Lecornu à ces hommages nationaux ? Il n'était pas présent la semaine dernière. Est-ce que c'est une absence qui vous choque ?
Je n'avais pas remarqué cela, pour être honnête, mais je j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas une présence au plus haut niveau, j'imagine.
La ministre des Armées est présente, évidemment.
Des Armées, de la Défense est présente. Le Hezbollah, il y a déjà de nombreuses années, avait été au cœur d'un attentat qui avait vu des dizaines de nos soldats tués. Deux de nos militaires valeureux ont été tués. Un autre a été blessé très gravement il y a quelques jours. Mais c'est bien la démonstration de la nature du Hezbollah qui refuse, qui rejette les discussions en cours à Washington, difficiles bien évidemment, mais nouvelles et j'espère porteuses d'espoir entre Israéliens et Libanais. La France est absente de ces discussions.
Vous parlez d'aveuglement, de grand aveuglement.
Ben, à force d'être dans une équidistance, à force de considérer que le Hezbollah est à la fois une organisation terroriste et politique, à force de ne pas voir que le Hezbollah, encore il y a quelques semaines, était au cœur d'une tentative de coup d'État au Liban, à force de ne pas voir que le Hezbollah, comme le Hamas, fabrique des tunnels dont le but est la destruction, évidemment, d'Israël, oui, on passe à côté de quelque chose d'essentiel.
Du côté de la diplomatie française, on s'active néanmoins pour rouvrir le détroit d'Ormuz, vous l'évoquiez dans cet entretien un peu plus tôt. Une conférence a été organisée, notamment à l'initiative de la France, et des répercussions évidemment en cascade sur le plan intérieur, des prix à la pompe, au carburant, dont sont témoins tous les jours les Français et qu'ils le subissent de plein fouet. Ce que fait le gouvernement français, ces aides ciblées, c'est la bonne stratégie selon vous? C'est la bonne réponse?
Je pense que oui, en plus ça tient compte également de l'état de nos déficits publics.
Qui donc ne nous permettent pas de faire plus.
Et donc de l'absence de marge de manœuvre. La France a raison de ce point de vue-là d'essayer de jouer demain son rôle pour sécuriser le détroit d'Ormuz, dans le lien notamment que nous avons avec les pays du Golfe et plus particulièrement avec les Émirats. Mais nous voyons bien d'ailleurs que nous sommes dans un de ces moments clés. Quand je vous parlais de basculement de l'histoire, du retour de la guerre avec la part tragédie, avec la part de l'histoire et toutes les tragédies potentielles, avec au fond nous sommes dans un moment qui ressemble à celui de 1958. C'est-à-dire que dans ces moments-là, la France doit être capable d'une forme de sursaut.
Mmh. Et ce qu'elle ne fait pas, est-ce qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui de faire?
Je pense que le prix de la pompe est tout à fait essentiel, mais nous venons de souligner ensemble la difficulté d'agir vu l'état de nos déficits publics. Donc, il faut dire la vérité aux Français sur l'état du monde, sur les enjeux stratégiques, sur les priorités budgétaires qui doivent être les nôtres, notamment il faut continuer à augmenter massivement nos budgets militaires, ce que font tous les pays européens.
Ce que d'abord, nous faisons également.
Exactement, dans un basculement, parce qu'il faut soutenir évidemment l'Ukraine, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la guerre de demain, c'est celle des drones, c'est la guerre hybride, c'est la guerre de l'intelligence artificielle, donc faut être à ces rendez-vous. Mais si ça c'est la priorité, si notre sécurité c'est la priorité, si l'investissement massif sur l'école et l'intelligence artificielle c'est notre priorité, ça veut dire qu'il faut des réformes profondes de notre protection sociale, de notre système de retraite, et qu'il faut aussi faire des économies massives. Et c'est ce discours de vérité qui manque. Or, tout est lié. La stratégie, la diplomatie, la guerre, l'économie, le budget, le discours, la stabilité de notre pays, puisqu'aujourd'hui, avec la dissolution, nos institutions sont face à une crise démocratique existentielle tout à fait inquiétante.
Sans doute une thématique transition toute trouvée pour la prochaine présidentielle qui a déjà commencé pour certains. Emmanuel Macron hier a lancé une pique aux partisans d'une ligne beaucoup plus dure avec le pouvoir algérien en ciblant, je le cite, tous les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau en tête s'est senti directement visé. Un président français peut-il d'abord parler comme cela? Et finalement, ce rapport de force qu'a voulu instaurer Bruno Retailleau n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est la bonne manière de faire?
Les invectives ne remplacent pas une ligne politique et l'absence d'autorité sur ce dossier de la France. Le président de la République a beaucoup donné au régime algérien, notamment en termes de mémoire.
Trop donné?
Beaucoup
c'est
trop,
ce que j'entends dans vos mots.
Parce qu'il n'a rien reçu, il n'a reçu que des insultes, l'emprisonnement de Sansal pendant un an, qu'il faut soutenir fortement, la condamnation de Kamel Daoud, un autre intellectuel franco-algérien, un journaliste français, Christophe Glaise, qui est toujours dans les cellules algériennes. Nous n'avons pas un problème avec le peuple algérien. Nous avons un problème avec son président et avec ce pouvoir qui, par ailleurs, a accompli des barbouzeries, nous le savons, sur notre sol. Nous ne réglons pas la question migratoire. Donc, plutôt que d'invectiver, plutôt que d'insulter, plutôt que d'avoir un langage léger, il faut de la gravité et rétablir un rapport de force, en effet, avec le pouvoir algérien. C'est notre intérêt et c'est l'intérêt aussi du peuple algérien.
Le rapport de force, mais le président français, pour rappeler le contexte, évoquait le système des, vous savez, des ces médecins, de ces praticiens diplômés hors Union européenne, beaucoup viennent d'Algérie aujourd'hui. Bruno Retailleau dit en gros, c'est un prétexte et que finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt et que l'on n'agit pas suffisamment.
Oui, il y a un problème en effet de technique, de procédure, mais qui nous concerne nous, d'abord français d'ailleurs, je crois que le président de la République l'admettait, mais ça c'est un sujet, il n'est pas négligeable pour nos hôpitaux, mais c'est un sujet à part.
Mais encore une fois,
le vrai problème, c'est quelle est notre stratégie vis-à-vis de l'Algérie, et pas seulement en termes de migration, même si c'est un thème tout à fait essentiel. Et nous sommes dans ces moments-là, nous l'avons évoqué longuement concernant le Proche-Orient, la question des valeurs est essentielle. Et quand des intellectuels ou des journalistes sont pourchassés, quand il s'agit en plus de nos compatriotes, il faut les soutenir, et il faut être clair et ferme à l'égard du pouvoir algérien.
Les soutenir.
Et pas jouer avec ça.
Boualem Sansal, vous en parliez, vous avez écrit également à son sujet, emprisonné en Algérie un an, libéré, retourné en France après avoir été gracié, qui déclare désormais vouloir quitter le pays. Lui aussi a des mots extrêmement durs, certains l'accusent peut-être un peu d'ingratitude. Vous comprenez sa position de vouloir quitter la France face au dictateur de la pensée, dit-il.
J'aime l'écrivain, j'aime sa langue, son amour pour les Français, son goût de la provocation, son courage et sa liberté, son combat contre l'islamisme. Il faut lire évidemment ses livres. Et moi, je le défends totalement. C'est un homme libre, mais qui aime passionnément la France, qui aime passionnément notre langue. Il l'a dit, il suffit de lire le Serment des Barbares en 2084, qui est académicien français et belge, donc les deux grandes académies francophones, et qui subit un procès inacceptable, insupportable, d'abord des Algériens, et puis d'une partie de la gauche qui recense ses amitiés.
Donc surtout ne pas lui en vouloir. Manuel Valls.
Le soutenir et lui dire surtout notre reconnaissance.
On arrive à la fin de cet entretien, évidemment j'évoquais la présidentielle. La gauche, évidemment, RLFI, tous sont d'accord pour le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas leur candidat. Vous la connaissez parfaitement, cette gauche. Ils sont tellement nombreux à se préparer, à être déclarés, ou peut-être un jour candidat. J'ai envie de vous parler d'un certain François Hollande. Vous y croyez à sa candidature? Il va y aller?
Mais moi, je pense que nous sommes dans un moment, c'est vrai pour Édouard Philippe, c'est vrai pour Gabriel Attal, c'est vrai pour Bernard Cazeneuve ou Raphaël Glucksmann, et donc c'est vrai aussi pour François Hollande. Bon, si eux pensent qu'ils peuvent être utiles au pays, bah, qu'ils avancent, mais avec des propositions, avec des idées, avec un regard nouveau sur le monde.
Qui ne sont pas suffisantes du coup pour vous aujourd'hui?
Bah, pas à ce stade, mais ça viendra. Et François Hollande a suffisamment d'expérience pour évoquer ces sujets, mais avec un devoir de vérité vis-à-vis des Français.
Et vous?
Mais moi, je m'exprime sur le fond et je verrai ce que je ferai à l'automne tranquillement. Mais je pense que les idées que je défends, elles seront au cœur de la campagne et j'attends des réponses.
Manuel Valls, merci beaucoup d'avoir été notre invitation ce matin. Merci. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
C'était le face-à-face. Merci Marie Chantrey. Vous restez bien sur RMC. Dans un tout petit instant, c'est Nicolas Canteloup qui s'installe pour Face à Canteloup. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Et tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Manuel Valls était invité du Face à Face ce matin. Et François Hollande voulait réagir à cette interview.
Bonjour à tous et j'adresse bien sûr un salut très amical à Manuel Valls, mon frère d'armes, mon camarade de combat, mon ref, mon brother, mon hermano, mon frate, mon gaggio, El Meu Germa, comme on dit en catalan. J'ai bossé ma chronique.
Oui,
bien sûr, travailler avec Manuel Valls, vous savez, c'était pas du travail, c'était disons-le, un plaisir, un honneur même. Je serais ravi d'ailleurs de recommencer. Et je crois bien que c'est bien la première fois que j'ai envie de repartir avec quelqu'un qui a été mon ex.
Alors, on sait que vous préparez pour 2027, mais ça suffit pas. Il faut aussi avoir un gros coup de chance, comme en 2012 avec l'affaire Strauss-Kahn.
Écoutez, je suis milliard, on ne sait jamais. Faut pas insulter l'avenir. Si ça se trouve, demain, Raphaël Glucksmann va s'étouffer avec une tartine de rillettes de tofu. Imaginez que Mediapart, demain, sorte une grande enquête. Bernard Cazeneuve va aux putes. Je ne dis pas qu'il y va. Je ne dis pas non plus qu'il n'y va pas. Peut-être, d'ailleurs, avez-vous des informations pour M. Béliard qui roulait en camionnette. Quant à la chance, vous savez, il faut savoir la provoquer. Bref, je me prépare, surtout lorsque je vois l'enthousiasme débordant de Manuel à l'idée de ma candidature.
Merci, monsieur François Hollande. Et tout de suite, on retrouve Marc-Olivier Fogiel, tiens, pour les titres de l'actualité.
Bonjour Mathieu et bonjour à Manuel Valls, bien sûr. Manuel Valls qui a le sourire car l'équipe de son cœur est bien placée pour l'emporter. Je ne parle évidemment pas du Parti Socialiste pour 2027, mais du FC Barcelone au championnat d'Espagne. Allez, c'est parti pour les titres. Espagne toujours jour, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour Roland-Garros, ce qui a réjoui son principal rival, l'Italien Jannik Sinner, en apprenant qu'il était libéré de la concurrence de l'Espagnol. Sinner était aussi heureux qu'un évadé d'Alcaraz. Et puis, États-Unis, lors de l'attaque contre la soirée de gala des correspondants de presse, le vice-président des États-Unis a été évacué par la sécurité avant même le président Trump. C'est pas J.D. Vance, c'est J.L.D. Vance. Je le devance. Gérard Larcher souhaitait lui aussi réagir.
Ah, j'apporte, bien sûr. Vous l'avez compris, tout mon soutien républicain au président Trump et à tous les invités de cette soirée. J'imagine l'horreur qu'ils ont vécu au milieu d'un banquet, devoir abandonner comme ça son assiette de parmentier de canard, son cuisson de chevreuil. J'en ai l'arme aux yeux. Devoir quitter la salle sans avoir pris ni dessert, ni miniardise, ni café gourmand. Les terroristes, vous savez, monsieur Valls le sait, n'ont plus de limite aujourd'hui. Mais quand j'ai vu tout ça, j'ai prié. J'ai prié qu'une fois que le terrorisme soit maîtrisé, les invités au moins l'opportunité de faire des doggybags.
Merci à tous. Alors après la tentative d'attaque contre le président américain, le maire de Nice, Éric Ciotti, a publié sur les réseaux sociaux un message de soutien à Donald Trump. Bonjour monsieur Ciotti.
Bonjour. Non, je ne me suis pas caché. Je ne suis pas caché sous la table comme les convives de M. Trump lors de l'attaque. Non, c'est juste que ma chaise est coincée. Voilà. Elle ne monte plus assez haut. Voilà. Alors, je tiens à adresser mon plus vif soutien à mon homologue américain. J'ai bien sûr pris toutes les mesures qui s'imposaient de mon côté.
Mais comment ça, quelles mesures ?
Mais écoutez, j'ai renforcé la sécurité à la mairie de Nice et celle de tous mes déplacements, notamment ce soir où d'ailleurs j'ai un dîner avec des journalistes internationaux de la province et de Varmatin à l'hôtel Ibis de Nice. Ma protection rapprochée a été renforcée et ce, de manière drastique.
Mais attendez, vous craignez pour votre sécurité ?
Mais bien sûr, monsieur Béliard. Bien sûr, nous les grands dirigeants mondiaux, nous sommes des cibles, vous savez, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y a des gauchistes psychologiquement dérangés, prêts à s'en prendre aux plus hautes autorités. À Nice aussi, je vous rappelle que Christian Estrosi est toujours en liberté, hein, et que cet homme fiché S, oui, S comme Estrosi, hein, s'envoyait à lui-même des menaces en accrochant des têtes de cochon sur sa propre maison. Donc, vous voyez bien, monsieur Béliard, qu'on a affaire à un cinglé.
Mais alors, rapidement, monsieur Ciotti, un mot sur les subventions municipales à des événements sportifs que vous avez supprimés ?
Oui, écoutez, non, j'ai simplement décidé de recentrer les financements municipaux sur des activités plus en adéquation avec la population niçoise. Écoutez, oui, excusez-moi, mais est-ce que vous avez déjà vu des octogénaires ou des nonagénaires participer à un ultra-trail ou un triathlon à Ironman ? Non, donc je préfère que cet argent aille plutôt au club de Scrabble, de belote de la ville, ou en aidant l'acquisition de cannes, de déambulateurs ou de couches confiance qui améliorent le quotidien des Niçoises et des Niçoises.
Merci monsieur Ciotti. On va faire un nouveau point sur l'enquête concernant les tirs au gala des correspondants de la Maison Blanche. Nous sommes avec Christophe Ondelat.
Trump. Donald Trump, l'affaire Donald Trump, quoi qu'il n'a-t-il bien pu n'arriver d'un Donald Trump ? C'est ce que nous avons tenté de découvrir dans ce nouveau numéro de Faisait Entrer celui-là qui est coupable. Nous sommes en plein mois de mai, très exactement le 25 avril. Et en cette veille de Noël, se déroule à Washington, en Californie, dans la banlieue ouest de Mar-a-Lago, à quelques kilomètres des côtes iraniennes, une soirée de gala avec des journalistes à l'hôtel Hilton. Au rez-de-chaussée du Novotel, situé au 4e étage de cet hôtel gris campanile, Donald Trump, le président américain, dîne tranquillement avec ses convives. lorsque tout à coup des coups de feu retentissent. Immédiatement, bien sûr, on pense à une attaque au couteau ou à la machette. Mais non, il s'agit en réalité d'une arme blanche. Ou de tout autre couleur. On n'en sait plus sur l'assaillant. Né en 1937, ce quinquagénaire d'à peine 31 ans est ciblé et maîtrisé par les experts à Miami. Quoi qu'il n'a-t-il bien pu motiver d'un tel geste ? Qui qu'a-t-il bien pu commanditer une telle attaque ? Et quoi qu'il n'a cloché dans la sécurité du président américain ? Autant de questions auxquelles nous ne répondrons pas dans le prochain numéro de Faisez Entrer, celui-là qui est cinglé.
Merci, merci Nicolas Cantelou. Face à Cantelou que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC à tout moment en podcast. Dans un instant les GG, bonjour Alain, quel est le programme ?
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Les Grandes Gueules, ça démarre à 9h avec Abel Bouilly, l'éducateur, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, et Laura Varton-Martinez, la sophrologue. Alors dans les GG, on reviendra sur les propositions de Gabriel Attal. Il se positionne en ce moment sur le dossier de l'immigration, l'ancien Premier ministre, et il voudrait une immigration en France un peu comme au Canada, avec privilégier le travail et même un permis à points pour pouvoir être régularisé en France. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? On en parlera dans les GG, bien évidemment, avec vous au 32-16. On reviendra sur les quatre départements qui décident de suspendre pour 3 mois le permis de conduire si vous êtes pris au volant avec votre portable, mais sans infraction. C'est-à-dire, vous avez juste votre portable au volant, boum, vous êtes arrêté, suspension du permis pour 3 mois. Est-ce que c'est sévère ou pas ? Et puis, nous recevrons, alors là, attention, un témoignage inédit, un ancien travesti du Bois de Boulogne, transsexuel même. Il est arrivé à 20 ans, d'originaire du Brésil, et il raconte la vie de la prostitution dans le Bois de Boulogne. Allez, à tout de suite avec les GG.